Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il était propriétaire des Dodgers. J'imagine que tout le monde aujourd'hui est satisfait.
Allons droit au bout.
Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous.
Je considère Dimitri un des génies modernes du football.
Ici c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zigote automatique de Mac.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense. Nous, nous sommes en direct comme tous les soirs évidemment avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Avec Stéphane Guy. Salut Stéphane.
Bonsoir citoyen, bonsoir.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Stéphane.
C'est vrai, c'est ce que je
lui ai dit. Pas là dimanche,
j'étais là dimanche.
J'étais là dimanche.
Parce que nous on était là samedi nous.
Pardon ?
Nous on était là samedi, c'est pour ça.
Ah oui, vous avez fait l'émission la plus importante de la semaine. Celle du verdict que vous allez refaire samedi, j'imagine.
Absolument.
Exactement. C'était 1h du matin, samedi soir.
Et vous écouterez de ma bonne ville d'Alençon. Et assurer son maintien en National 3 pendant que vous bougiez. Eh oui.
Ah, qu'il y a un doute sur le maintien ?
Ah, bah oui, ça va vite le foot amateur. Ouais. Hein, c'est des championnats cette saison et l'année prochaine, à 5 ou 6 descentes. Donc tu es vite concerné par la montée puis concerné par le maintien.
Comment ça, la saison prochaine aussi ?
Oui, oui, aussi. Ouais, ouais. La réduction de la Ligue 1 a des conséquences en cascade sur les championnats amateurs. On le voit en National avec. 5 descentes aussi, je crois, en national.
Ouais, alors en national, moi je découvre que les clubs qui montent ont plein de problèmes. Concarneau, Dunkerque, ce problème de stade, problème de tout. Ouais. Peut-être y penser avant, non ?
C'est pas toujours simple dans notre pays de transformer un stade en quelques mois.
Bref. L'événement ce soir dans l'after, les gars, c'est le départ d'Igor Tudor. Info, débat dans quelques instants. On donnera notre avis et on vous donnera les infos qu'il faut avoir.
Le scoop de Flo Germain, quand même. Qui a été le premier à l'annoncer.
Flo Germain, avec son gros pif, il avait senti le truc venir.
Émission, j'y étais, moi, le soir où il l'a annoncé.
Ouais. Il avait senti le truc venir il y a quelques jours déjà, en effet. Bravo. Bravo, Florent.
Bravo.
À 22h40, on débattra de la stratégie de recrutement du PSG, puisque des noms commencent à sortir. Et puis à 23h, cette question, mais pourquoi personne ne veut du foot féminin ? Oui, la Coupe du Monde de cet été n'a toujours pas de diffuseur. On en parlera ensemble tout à l'heure. Et puis on terminera notre débat sur les traîtres du foot. On a fait un petit tour d'Europe des traîtres du foot il y a quelques jours, mais on n'a pas parlé de la France. Et pourtant, il y a une petite liste sympa quand même. Chacun pourra donner le traître ultime de son club. Le 32-16 est ouvert. On dira également un mot de Monaco, où il y a une rébellion des ultras. Toujours la même histoire. Vous allez me dire, ah bon, il y a des ultras. Oui,
il y en a. Je ne sais pas si ça va faire beaucoup de bruit du coup.
Mais ils ne sont pas contents du tout. Et ils ont des raisons de ne pas être contents en plus. Parce que vu ce qu'ils racontent, c'est assez dingue.
Ce qu'ils racontent a été confirmé par Clément.
Oui, qui a sanctionné un joueur aujourd'hui. On en reparlera tout à l'heure. On a un petit match ce soir, si ça vous intéresse. C'est le barrage allemand, barrage aller. Vous savez, Hambourg, qui croyait monter l'autre jour et qui s'est fait avoir, joue son barrage contre Stuttgart, qui était donc le 16e de Bundesliga. C'est le match aller.
Sur deux équipes historiques de la Bundesliga qui se font un barrage, quand même.
Ouais. Et Stuttgart mène 3-0, et alors qu'il reste une demi-heure. Donc pour l'instant, Hambourg, c'est mal barré. Quand même.
Hambourg, vainqueur de Ligue des Champions.
Exactement.
83, c'est à la Juve de Platini.
Absolument.
Et puis on a Eric Salio.
Le Hambourg de Kevin Keegan.
Cette année-là.
On a Eric Salio. Eric Salio s'est-il remis de sa folle soirée avec mon fils ?
Ah bah c'était lundi, ça va, il a eu le temps de se remettre, non ? Plutôt qu'il nous parle des autres Français.
Il était tellement en feu que je sais pas si.
Il est encore là, Rinderschneck, ou c'est fini ?
Il est dans le dur, on va dire les choses clairement. Il a débuté son match de manière formidable avec un 6-2 implacable, mais petit à petit, je pense qu'il était un petit peu en sur-régime, et là ça se traduit au tableau d'affichage.
De toute façon, c'est normal, on n'aura pas de Français au troisième tour, tout va bien.
Comme il y a deux ans. Et 6-4,
c'est logique, hein.
Fritz, et surtout 4-1 au troisième pour l'Américain Arthur Inaknes, qui n'a jamais battu de top 10 durant sa carrière. Ça peut être le moment,
ça commence ce soir.
Voilà, mais ça va être compliqué.
Le match de la journée, on est d'accord que c'était Nick Sinner-Altmaier.
Ah oui, bien sûr.
Match magnifique, surtout le 5ème set. Extraordinaire partie, plus de 5 heures.
Gros deux balles de match sauvées par
c'était extraordinaire à la fin.
Qui
ça tombe dans le top 10, là. Il n'y a plus réellement de valeur sûre en ce moment.
Non, il avait déjà très bien joué à Rome, mais c'est vrai que cette moitié de tableau de Daniel, elle est ouverte à tous les vents, mais il y a des mecs qui doivent commencer à s'y voir. Je pense à Holger Rune ou voir Casper Ruud. Hein.
Ah bah Casper, oui, surtout qu'il a beaucoup de points à défendre par rapport à l'année dernière. Il y a un petit peu la pression, le fantôme.
Ouais. Et demain soir, je serai avec vous avec Alcaraz, Chapovalov, ce sera pas mal.
Il va falloir que tu nous vendes des matchs maintenant, mon vieux.
C'est officiel que c'est le match du soir ?
Ah oui, oui.
Officiel, ah ouais, c'est très bien, j'y serai.
Ah oui.
Je serai sur place si vous voulez une intervention en direct depuis Roland-Garros, je suis dispo.
La chance.
Ah, moi, j'ai fait une intervention tout à l'heure.
Il y a gros crocage, quand même. Là.
Pourquoi?
Bah, Roland Garros, c'est du croquage.
Ah, t'es invité?
J'ai toujours dit, moi, le seul croquage que j'assume dans ma vie, c'est le tennis.
T'es invité par qui?
C'est ma faiblesse.
Invité par Takini, j'ai cru comprendre
sur le gueule.
Daniel avait des accointances avec.
Non, si on met celle qui traîne, n'hésite pas.
Takini, hein. C'est Monte Carlo.
Ah bon.
Demain soir, c'est Ed.
Ah ouais.
Ah, Ed, je suis moins fan.
N'oublie pas de les citer deux ou trois fois ce soir, quand même.
Un journaliste n'a pas le droit de dire ça. Je ne suis pas journaliste tennis, donc je peux. Voilà, si...
Alors, tu es censé citer tous les concurrents, si tu voulais faire le métier correctement.
Ah, tu veux parler de mon équipement tir raquette Winston.
Je suis invité par X, mais je soutiens aussi Y, Z, W.
Mon équipement tir raquette, c'est Wilson.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Chaussures ASICS.
Bon, Eric, à tout à l'heure.
Je rêve.
Tu joues avec quoi, toi, Eric?
J'ai les chaussures ASICS aussi.
T'as encore une raquette en bois, non?
J'ai retrouvé, on m'avait prêté, puis je l'ai chapardé.
Du tournoi de Flair en 83, Eric, non?
Le tournoi interne, oui. Interne. Mais champion de Londres.
T'as enfin regardé le fameux doc ou pas?
Non, toujours pas.
Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible que tu n'aies pas vu ce doc.
Je vais attendre la fin du tournoi.
Bon, on peut avancer là.
Tu as été champion de Londres de tennis quand même.
Minime, oui. J'ai gagné mon titre à C.
Il devait être trois joueurs.
Le tennis club de C.
Champion de l'Orne minime.
Ah, dans l'Orne à 32, tu gagnes le tournoi. Hein.
Ah oui, facile.
Moi, j'ai été champion de l'Orne de judo la même année.
Oh
non, ah,
quel palmarès.
On était deux.
Bravo.
Quelle vedette.
Et j'ai regardé ton affaire. J'ai regardé qui gagne parce que j'avais un doute. Et effectivement, qui gagne a perdu avec Hambourg la finale de la Coupe d'Europe.
Il n'y avait pas Magat du côté Hambourg?
Si, c'est Magat qui marque le but en 83 à la finale. Ouais.
Comment ça se l'a ramené sur le foot, celui-là?
Félix Magat. Mais tu vois, il a toujours aimé le foot, avec Salio.
Bien sûr.
Supporter de Caen.
Moi, j'adorais Nottingham Forest. J'adorais cette équipe.
Ah, mais c'est parce qu'ils ont gagné les deux de suite et que tu devais avoir 10, 12
j'adorais
ans.
J'adorais le maillot.
Tu sais que c'est le seul club au monde qui a un titre de champion et deux Coupes d'Europe des clubs champions.
Absolument.
C'est incroyable.
C'était quoi le logo, Stéphane? Il y avait
un logo, un petit arbre.
Oui, c'est
en fait.
Ça, ouais.
Donc ça s'est fait Forest, en fait. Un petit arbre.
Voilà, c'est ça. J'adorais ça.
Voilà.
La forêt du shérif de Nottingham.
Exactement. J'adorais.
Alors, il y avait un autre événement sportif ce soir. On salue Jonathan Lacardi qui s'est fait terrasser dans son combat de grappling qui était diffusé tout à l'heure, sur la chaîne Twitch d'RMC Sport.
Je croyais qu'il gagnait tout le temps.
Ouais, le meilleur moment, c'est quand il arrive dans la cage avec les tatouages et tout. Là, il est parfait.
Mais bon, après, il m'avait dit qu'il devait gagner.
Bah ouais, mais ça, c'est la boxe.
Il a pas fait mal, j'espère.
De combat, t'as toujours, tu sais, le mec fait un peu de trash talking avant en faisant croire que c'est le meilleur.
Franchement, il est fort. Il en a gagné beaucoup des combats.
Ouais, bah là, bon.
Mais là, c'était un jeune, il m'a dit. C'était un jeune et tout.
Ouais, c'était un jeune. Bon.
Il s'est pas mangé derrière la sortie, il a pas mis une danse.
Non, mais non, Jonathan, il est pas comme ça. Il a peut-être parlé de Tudor, je sais pas. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais vous faire écouter un extrait de Génération After tout à l'heure. Génération After a eu l'excellente idée d'inviter Adrien Thomasson,
un ami de l'After.
Un ami de l'After, exactement. Un ami de la revue de l'After aussi. Adrien Thomasson n'a pas résisté, il a voulu faire ses trois points. Sous l'impulsion de Nico, on va écouter.
Alors, comme tu aimes l'after, on va faire un petit kiff avec toi, Adrien. On va lancer un jingle que tu connais par cœur. C'est parti, jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les 3 points d'Adrien Thomasson sur sa saison lensoise. En 20 secondes, Adrien, on t'écoute.
Alors le premier point, ça sera la qualification en Ligue des Champions et la place de vice-champion de France. Mon deuxième point, ça sera le maintien du Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Et mon troisième point pour finir, ça sera un match à Bollaert, chose que je souhaite à tout fan de football. Ouais.
Magnifique, mais
superbe.
Il a toujours fait ça, on te prend direct dans l'after, mon cher Adrien. Il y a le ton, il y a le fond, il y a tout ce qu'il faut, c'était un régal de t'avoir.
Juste une chose, que moi quand j'écoute les 3 points le soir, si vous pouvez faire passer le message à Daniel qu'il est toujours un peu trop long dans ces 3 points.
Ah bah oui, évidemment, bien sûr.
Voilà. Magnifique, magnifique Thomasson, bravo.
C'est bien quand on est aidé, tu vois, par,
ça fait honneur,
par des influenceurs.
Il a fait honneur à sa profession. C'était passionnant de l'écouter.
Exactement. En plus, c'est ses premiers 3 points. Il a parfaitement respecté le timing. Je lui dis bravo. Alors, Tudor, on a appris donc ce matin qu'il partait. Il y a eu une petite conférence organisée. On a vu un Tudor plus souriant que jamais. Comme si, je sais pas, comme s'il y avait un poids de moins sur les épaules. Point,
effectivement.
Donc, c'était assez étonnant de le voir ultra. On a l'impression qu'on n'avait jamais vu sourire, en fait. Tu vois, quand tu le vois comme ça, très souriant. Bon. Je vous donne les infos avant qu'on en débatte. Mais Pablo Longoria a fait savoir, il a tenu à le faire savoir aux journalistes que Tudor avait démissionné. assez rare dans le monde du foot. Alors, est-ce que c'est la vérité vraie? Bon, pas besoin de pas croire Longoria, mais ça voudrait dire que Tudor s'assied sur un an de salaire. On va écouter Tudor tout de suite, qui évoque son départ, et ensuite, évidemment, on a plein de questions à poser sur ces entraîneurs de l'OM qui ne restent qu'une année, sur la suite, sur les raisons de son départ, etc. Mais d'abord, écoutez Igor Tudor.
C'était un honneur pour moi de travailler cette année au sein de ce club. C'était un honneur de faire partie de cette famille, de trouver des supporters comme on en trouve rarement, une énergie dans cette ville qui est rare. J'ai passé une année formidable. Je pense que je quitte le club en le laissant dans une meilleure situation que celle dans laquelle je l'ai trouvé, et ça, c'est une fierté pour moi. J'ai pris cette décision de partir pour des raisons privées et professionnelles. Par contre, je n'ai trouvé aucun accord avec d'autres clubs. Je ne m'en vais pas parce que je me suis disputé avec qui que ce soit ou que les gens ne m'aimaient pas, bien au contraire. Je pense que travailler une saison ici à l'OM, c'est comme travailler 2-3 ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille, ça faisait un moment que j'y pensais.
Alors voilà, Florent Germain nous disait tout à l'heure dans le podcast After Marseille et que lui, il pense que ça fait un bon moment que Tudor a pris sa décision. Bon, alors, peut-être qu'il l'avait pas partagé, mais bon, c'est le ressenti qu'il a. Donc voilà les infos, ce qui évidemment a inspiré un avis à Daniel. Jingle rigolo, s'il vous plaît.
Mais je sais plus.
Non, mais moi j'enchaîne. Bon, ben là j'espère que tu sais.
Écoute, c'est marrant que.
Oui. Un nouveau jingle, non ?
Je ne choisis jamais quand le jingle doit passer, mais je trouve qu'il se prête parfaitement à ce que je veux dire, parce qu'il y avait comme une sorte de quoi dans ce jingle, un peu scepticisme ou ne pas trop savoir quoi penser pour l'instant. Et c'est un petit peu ça mon état d'esprit, effectivement. Alors, oui, c'est vrai, Flo Germain l'avait d'abord pressenti et son pressentiment s'est transformé en info. Factuellement, c'est mardi soir au resto que la décision a été, on va dire, officialisée entre les deux principaux intéressés, à savoir le président et l'entraîneur. Tudor a confirmé à Longoria qu'il n'allait pas rester. Bon, il va y avoir, je sais pas trop pourquoi, une sorte de maintenant de match pour savoir est-ce que c'est Longoria qui le pousse dehors, est-ce que ça arrange Tudor, est-ce que ça arrange Longoria, est-ce que ça arrange les deux. Après tout, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu?
Ah non. Je te laisse terminer.
Non, mais je t'en prie, vas-y.
Non, moi ça m'intéresse.
Moi, je suis pour la vie qu'on coupe et pour la vie participative.
Non, moi, ça m'intéresse de savoir d'où ça vient quand même. Mais termine ton propos.
Non, mais alors. Ok, si derrière, tu n'as pas l'entraîneur qui dit que de toute façon, il ne part fâché avec personne, que de toute façon, il avait envie de partir, il le dit pour des raisons également à moitié perso. Il a ce rêve secret en lui, de toute façon, d'entraîner en Italie et surtout d'entraîner la Juve, et où il est déjà passé dans le staff, et évidemment comme joueur. Est-ce qu'on va de toute façon réellement savoir s'il était fatigué comme il le dit? Est-ce qu'à un an à l'OM ça fatigue plus que deux ans ailleurs? Tout ça c'est des phrases, c'est de la communication. Et très franchement, moi ça m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est de savoir pourquoi ça se passe comme ça. Parce que, comme je le dis souvent, et d'ailleurs je le disais dans mon livre en fait, tant que ça marche, la méthode Longoria, qu'est-ce que ça veut dire ça marche? C'est que tu fais deuxième et que tu fais troisième. C'est que tu fais podium. Et que t'inscris le club dans une continuité d'être un acteur de la Coupe d'Europe. Mieux si c'est la grande que la moyenne. Il est encore possible que ce soit la grande. Donc si ça continue, on va dire que la méthode Longoria, ça fonctionne. Néanmoins, elle est quand même originale, cette méthode. Cette méthode qui consiste à changer beaucoup de joueurs, un entraîneur tous les ans. Parce que l'année dernière, c'était la même chose. Hein. Alors, je sais pas, est-ce qu'il fait des accords secrets ou quoi, mais pareil, Sampaoli est parti parce qu'il a dit « je m'en vais ».
C'est différent, hein, parce que Sampaoli, rappelle-toi, il reprend la saison et il part quelques jours plus tard.
Parce que
que ça se fait de façon un peu plus propre. Quand
parce
même.
qu'il s'aperçoit qu'il va pas avoir les joueurs qu'il veut, et que la méthode de changer l'effectif avec des joueurs qui sont prêtés, ça ressemble à de l'habile bricolage qui, encore une fois, fonctionne dans le sens où le club il est dans le haut du classement et il joue la Coupe d'Europe. Mais est-ce que ça peut durer comme ça? Je sais pas, il y a des clubs qui font ça parce que l'OM après tout, il y a quand même un budget qui est conséquent. Ils ont le droit de se dire on va construire quelque chose avec un entraîneur. Qu'est-ce que ça apporte réellement de changer comme ça d'entraîneur tous les ans? Tudor, honnêtement, moi, j'ai reçu toutes les critiques et tout ce que j'ai entendu. Néanmoins, la façon dont il arrive en cours de route comme ça, joueur qui connaît pas, il met le truc en place, il termine quand même podium, même si effectivement ça aurait été mieux de finir deuxième. Moi, je pense qu'il peut partir la tête haute. Évidemment qu'il pouvait faire mieux. Il pouvait faire mieux, il n'y a aucun problème. Mais entre la taille du budget, l'entraîneur qui reste pas deux années de suite, là, pareil, visiblement, il faut s'attendre encore à un grand renouvellement de l'effectif. Moi, j'aimerais y voir clair un petit peu dans cette méthode. Et pour l'instant, on n'y voit pas tellement clair parce que personne ne cherche ce qui pourrait ne pas être clair, tout simplement parce qu'encore une fois, ça marche, ce bricolage habile. Si ça devait ne pas marcher, attention à ce qu'il y aurait dans les placards ou sous la moquette.
On va revenir tout à l'heure sur la stabilité chronique un peu des coachs à Marseille. Il y avait d'abord Stéphane, ton avis à toi sur...
C'est pas vraiment normal, en fait.
Est-ce que tu es d'accord avec Daniel sur ce départ?
Ouais, non, moi je suis assez stupéfait par ce départ et par le fonctionnement de là, effectivement, parce que ce serait une voie nouvelle que Longoria initierait quelque part, effectivement, le grand chamboule-tout permanent. Et c'est contraire à toutes les idées reçues qu'on a toujours eues sur l'une des clés de la réussite, qui est la continuité, qui est le temps, etc. Donc, mais en même temps, le constat est là. Deuxième avec Sampaoli, troisième avec Tudor, en renouvelant très profondément l'effectif. Donc, effectivement, je me souviens aussi que Daniel disait il y a quelques jours à ce micro qu'il dirait oui ou non si la saison était réussie de l'OM après le tour préliminaire de Ligue des Champions, en gros, s'ils étaient ou non en Ligue des Champions. Mmh. Donc on n'aura jamais vraiment finalement la possibilité de faire un bilan définitif de Tudor.
Exactement.
Il va partir,
ça c'est vrai.
En cours de route.
C'est quand même un coitus interruptus ou non sa troisième place en gros. C'est pas lui qui la bonifiera.
Ouais. Ce qui est quand même. Peut-être qu'on va apprendre la semaine prochaine qu'il a signé à la Juve. Alors ça va devenir un peu plus clair quand même parce que c'est quand même un peu nébuleux cette affaire.
Ça veut dire qu'il aurait menti puisqu'il dit, il a dit l'inverse là.
Mais c'est pas exclure non plus. Ça sera pas le premier ni le dernier
parce que c'est ce qu'il veut vraiment.
Peut-être que l'annonce se fasse là avant le dernier match de la saison. Ça laisse ouvert toutes les hypothèses. Moi, je trouve aussi, j'ai vis-à-vis de son travail beaucoup de respect parce qu'effectivement, débarquer en cours de route à Marseille, même si c'était sans doute lui au courant bien avant Sampaoli qu'il allait prendre les rênes de l'équipe, mais avec un effectif très 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 chamboulé, devoir intégrer la Ligue des Champions dans le planning, en sortir rapidement. Il y a eu des émotions positives à Marseille cette année, mais on est toujours en hésitant sur le cas marseillais entre se dire oui, c'est bien, ou ça aurait dû être mieux. Moi, je suis quand même finalement dans le camp de ceux qui pensent que ça aurait pu, ça aurait dû être mieux.
Un point tennis, Daniel, s'il te plaît.
Tout le monde le pense.
Un point tennis, ensuite de continuer le débat avec Sofiane. Eric,
2-7-1 pour Taylor Fritz sur le cours Suzanne Lenglen. Donc, ça signifie que peut-être dans une demi-heure, trois quarts d'heure, il n'y aura plus de Français en lice à Roland-Garros, puisque vous le savez, Arthur Rinderknecht est le dernier représentant tricolore.
Le fameux en tennis, il n'est plus français.
6-2 Rinderknecht, mais 6-4, 6-3 pour Fritz, c'est sur mais le
tu
central.
Tu vas rester à Roland-Garros quand même, Eric.
Je sais pas, je vais me poser la question. Ouais. 6-4, 6-2. Non, attends, tu peux avoir quand même un Alcaraz Djokovic en demi-finale.
Hein. Non, mais là, tu penses pas qu'il peut renverser le match, là?
Non.
D'accord.
Non. On le pense pas. Personne ne le pense.
4, 6, 2, 4, 1 pour Zverev contre Bolchev.
On enregistre, ça tourne.
Magnifique. Allez, on continue le débat sur l'OM dans quelques instants avec Sofiane au 32-16. Tudor n'est plus le coach, ne sera plus le coach de l'OM après la dernière journée, bien sûr. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h20, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là également. On a un magnifique week-end, hein, les gars. Hein. On dira un mot de Bordeaux tout à l'heure, parce que Bordeaux joue sa place en Ligue 1 demain, tout comme Metz et Le Havre d'ailleurs. Mais il y a un suspense sympa demain soir et on vivra dernière journée de Ligue 2 demain avant l'after. Et puis samedi, évidemment, dernière journée
pour
de
Le Havre, il n'y a plus de suspense, parce que comme ils ne gagnent plus un match maintenant, là.
Ils peuvent encore ne pas monter.
S'ils perdent demain, il y a un scénario où c'est possible ça.
Ouais. S'ils perdent demain et que Metz et Bordeaux gagnent, ils ne montent pas.
Voilà. Ah, parce qu'au club, là, c'est le bordel bien comme il faut. Là.
Ah oui ?
À tous les étages, oui. Oui, bah, je sais pas, il faut interroger. On a un consultant qui bosse là-bas.
Mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu là.
Ah oui, mais parce que c'est le feu justement là-bas. C'est justement parce que c'est le feu entre lui, le président, certains joueurs. Bon, je demande qui tient quoi que ce soit là. Ah, c'est pour ça que je demandais si c'était encore possible la catastrophe. Parce que
tu parles de Mathieu Bodmer qui, par ailleurs, avec son boulot de cette année, c'est T'as eu une petite cote très sympa dans le monde du foot en tant que directeur sportif et qui est déjà demandée par des clubs de Ligue 1 très prestigieux.
Il a été reçu à Lyon, pardon. Je sais pas si ça a été. Ouais,
tu es en train, de compléter ce que je commençais à dire. C'est qu'il y en a qui ont peut-être cru que c'était fini avant que ce soit fini.
Bon.
Je rappelle, qui est le président du club?
C'est un Américain.
Non, c'est Jean-Michel Roussier.
Oui.
Non, c'est le président délégué.
Ah, oui, voilà.
Il y a encore des gens qui donnent des clubs à Jean-Michel Roussier quand même. Il y a encore des gens qui ont eu l'esprit, qui ont cru que c'était intelligent de confier les rênes d'un club à Jean-Michel Roussier.
Il est passé par pas mal de clubs, l'OM.
Il est passé à peu près partout Nancy. Et ça a réussi jamais nulle part. Mais je sais pas comment il a réussi à se placer, qui a réussi à dire aux Américains, c'est une bonne idée de prendre Jean-Michel Roussier. Je sais pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû dire ça. Donc l'Américain, il a dû dire, c'est bien, on va le prendre. Bon, ils se sont embrouillés, là, hein. Roussier, Bodmer, là, c'est
ah bon,
fini. Ah bah oui, oui. Voilà. Donc, non, c'est très
des
curieux.
Choses à l'after,
très curieux.
Pas tout ça.
Très curieux la fin de saison du Havre, là.
Et avec 32 matchs sans perdre, de suite.
Ouais. Et là,
c'est extraordinaire.
Là, comme par hasard, là.
32 ou 34, d'ailleurs.
Donc, j'avais pas regardé de très, très près s'il y avait un.
Michel Roussier qui a aussi été patron de chaîne de foot.
Ah oui, une chaîne de foot qui a vraiment très, très bien marché, là. Vraiment, c'est magnifique, là.
Bah, Media Pro, il était là.
Ah oui, il était là à l'autre, là. C'est C-Foot aussi.
Oui, dans C-Foot qu'on avait rebaptisé C-Foot, C-Foot, puisque pas grand monde ne regardait.
Oui, mais ça, c'est encore, c'était un projet nébuleux déjà au départ. Mais le Téléfoot, dont il a été le taulier, on va dire. C'est...
Qui, Téléfoot?
Bah, Media Pro.
Téléfoot. Ah, c'est vrai, ça s'appelle comme ça, la chaîne. J'ai oublié que ça s'appelait comme ça. Ah, bah oui. Certains l'avaient rencontré. Il avait une conception du métier de journaliste. C'est quelque chose, quand même.
En tout cas, demain soir, Bordeaux sera sur RMC, tout comme Metz, tout comme Le Havre.
Au départ, il est médecin, non?
Jean-Michel Roussier?
Il n'est pas médecin au départ.
Ah, je ne sais pas. Ne confonds pas avec Luc Dayan, qui lui est médecin. Elle était médecin.
Luc Dayan a d'autres compétences.
Après, je pense qu'on reste médecin toute sa vie quand on est médecin.
C'est pas les mêmes compétences, quand même.
On peut se faire rappeler docteur.
Pas du même monde.
On peut se faire rappeler docteur toute sa vie.
Voilà. Aussi,
on salue. Luc.
Pas, c'est quoi son métier de base avant d'être président de club incompétent et de chaîne de télé? Il doit avoir un métier de base, non?
Bon, je pense qu'on a compris le message.
Pour Daniel.
On a compris.
Après, il y a des faits ou non, Sylvain? Non,
ah oui, non, mais ça, là-dessus, je partage ton avis.
Allez, revenons à l'OM.
Je ne le connais pas personnellement, mais.
Alexandre Bompard est meilleur pour diriger Carrefour, et encore, j'en sais rien parce que je ne me suis pas intéressé, que la rédaction de Canal. Quand il y était, au sport.
Oh, il n'a pas un bilan non plus.
Bon, écoute.
Alexandre Bompard est l'homme quand même qui a fait la fusion Canal Plus TPS.
Ah bah je sais,
qui,
j'y étais.
A pesé lourd. Donc non, c'était un coup pour le coup, c'était un coup stratégique.
Ouais.
Alors, si je puis me permettre quand même, il a quand même réussi en craquant le portefeuille de Canal pour acheter l'intégralité de la Ligue 1, largement au-dessus de ce que ça valait. On l'a quand même fait passer pour un héros alors qu'il a surpayé un produit.
Il l'a surpayé avec un objectif stratégique derrière. C'est pas surpayé pour faire ce qu'a fait Téléfoot. Il y avait l'idée derrière d'arrêter le bouquet TPS, qui a été le cas. Deux ans après, la fusion était faite. C'était ça, c'était le prix de la fusion, le prix des droits. Ce qu'on n'a pas compris, par contre, les acteurs du foot, et combien on est 15 ans après, le prix de la Liga n'a pas changé. Ça, par contre, c'est ça qui doit interpeller tout le monde. C'est que la valeur de la Liga n'a pas évolué depuis 2007.
Oui, mais sans doute, parce que c'était surévalué à l'époque aussi.
Évidemment, c'était surévalué à l'époque.
Bien sûr, c'était surévalué.
Totalement surévalué, bien sûr, ils avaient tout gonflé.
Et je précise que c'est Dijon qui joue contre le Havre, donc c'est Pascal Duprat contre le Havre.
Ah!
Daniel va être supporter de Pascal Duprat. C'est la nouvelle qu'on apprend ce soir dans l'after.
Pourquoi,
moi, je le serais. Dis franchement,
Duprat, c'est 8 matchs. Moi, je vois pas pourquoi je voudrais pas que le Havre monte. Je m'en fous.
Non, non plus.
En fait,
non,
vraiment,
c'est pas ça que je dis, mais.
C'est pour le coup, j'en ai vraiment rien à faire.
Duprat fait un excellent parcours à Dijon. 8 matchs, 4 victoires, 4 nuls. Invaincu.
Le
problème, c'est qu'il faudrait pas que ça descende quand même.
Bon, on verra demain.
Ça descend quand tu reprends une équipe qui est à 10 points de la non-relégation.
Personne ne l'a obligé à dire que de toute façon, il ferait forcément mieux que tous ceux qui sont passés avant.
Il a incontestablement fait mieux que son prédécesseur. Alors que je pense d'ailleurs, son échec.
Non, mais le héros qui l'année dernière plante Saint-Etienne et qui va planter Dijon, genre au niveau de l'armure héroïque, il va y avoir des trous dedans quand même.
C'est caricatural qui ressort. Il n'a pas planté Saint-Etienne. Saint-Etienne était déjà très planté avant qu'il arrive.
Le problème, c'est quand tu ouvres ta gueule, c'est ça le souci. Quand tu ouvres ta gueule pour dire que tu seras le meilleur, mais qu'en fait tu fais plus rien, c'est qu'à mon avis, t'es fini.
Bah, tu fais pas rien.
Mais peut-être qu'il va aller gagner au Havre. Hein,
quand tu fais 8 matchs de Ligue 2, quand tu fais 8 matchs de Ligue 2 avec Dijon qui n'arrivait pas à gagner un match et que tu fais 4 victoires, 4 nuls.
Il n'était pas obligé de mentir en disant moi je fais toujours mieux que tout le monde et tout, alors qu'il n'a jamais fait mieux que personne. Moi, les chiffres l'ont montré, en plus on les avait donnés.
Non, je
pense. Bon, lui, il se la raconte. Il va aller gagner au Havre et puis il va sauver Dijon, ce sera très bien. Et si ça marche pas, ça sera un deuxième échec de suite.
En tous les cas, je pense que jouer Dijon sur ton dernier match à domicile de la saison, c'est pas.
Tu sais, Stéphane, à un moment, moi, tu sais, c'est comme dans notre métier ou comme dans chez les écrivains et tout. Moi, les génies incompris, j'ai jamais cru à ça, moi. Donc s'il était vraiment si fort, il serait dans un grand club.
Personne te parle de génie.
C'est comme Laurent Blanc après le PSG, il était formidable. Personne l'a appelé. C'est quand même au bout d'un moment les génies incompris.
Ah ouais, mais j'ai du mal. Laurent Blanc démérite pas du tout à Lyon. Là, cette année, il fait
une traversée du désert énorme. Lyon ne sachant plus où aller.
Il a remis Lyon sur les rails.
Bon,
faut quand même de temps en temps reconnaître les choses aussi, Daniel.
À un moment, quand t'es un génie. Comme tout le monde nous le vend, à un moment, les gens se battent pour toi.
Personne ne te
dit. Les gens se battent pour toi. Toi, t'as arrêté Canal, les gens sont venus te chercher. Oui ou non?
Nous, par exemple.
Oui, bien voilà. Sûr.
Moi, je suis un génie incompris, Daniel, tu le sais bien.
Ah non, justement, t'es pas incompris.
Non, mais soyons sérieux.
Suis sérieux. Si t'es si fort que ça, à un moment, tu vois, voilà. C'est comme Verratti. Verratti est tellement magnifique et fort. Tout le monde le dit et tout. Il va quitter le PSG s'il quitte le PSG. Les clubs vont se l'arracher. Ce sera ça, c'est normal. C'est comme Aurier à l'époque. Il était génialissime. Les clubs se sont battus pour l'avoir, et en plus il a eu des bons clubs. On a vu derrière ce qu'il a fait.
Il est pas parti.
Après il a brillé
à Bourgogne,
les mecs le faisaient même plus jouer tellement il était catastrophique. Et puis voilà,
il joue encore d'ailleurs, il est toujours actif. Richard Jean est toujours football.
Bien sûr,
ouais, c'est repose du coup,
c'est 8 matchs avec Dijon,
on conclura la
même s'il perd, ce sera pas grave, ce sera 4 victoires, 2 défaites.
Franchement, t'as réussi à vendre la Ligue 2. C'est passionnant. T'as été d'un positivisme absolu sur la Ligue 2.
Ceci dit, c'est des soirées.
T'as bien vendu la soirée de demain.
C'est des soirées extraordinaires. Moi, la semaine dernière, je suis un peu Concarno. J'ai assisté au match de Concarno.
Voilà, oui, ça va être bien.
La soirée en national était incroyable. Ah, oui. Il y a eu, je ne sais quoi,
c'est les meilleures soirées.
Je crois d'équipes. À un moment donné, Châteauroux descendait. Après, Le Mans descendait. Finalement, c'est Nancy qui descend. Et demain, on va voir le même scénario.
En Nancy, un jour, il faudrait quand même qu'on reçoive Gauthier Ganaille, l'autre génie incompris qui sauve les clubs, là. Qui était venu dans l'after pour nous dire à quel point il était génial.
Partout
il passe, il coule tout le monde.
Et qui devrait reprendre le club de Textor.
Molenbeek. Qui rentre dans la galaxie Textor.
Ouais. Mmh. Ouais, oui, Molenbeek qui était promu. Ouais. Bah, toi, il va aller couler Molenbeek alors.
Allez, à tout de suite dans l'after pour revenir sur Marseille avec Sofiane. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
22h33, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là, et on continue notre débat sur Marseille, on va même le conclure avec Sofiane qui est là au 32-16, supporter marseillais. Salut Sofiane.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Stéphane.
Bonsoir. Bon,
Sofiane, t'es déçu du départ de Tudor ou pas tant que ça?
Ouais, je suis quand même déçu de son départ, et moi l'analyse que je voulais faire avec vous, sans, je voulais la décliner en deux temps. Moi je trouve que la saison, elle est frustrante. Mais elle n'est pas ratée. Je m'explique. Pour moi, en fait, il y a un vice de forme dans les critiques qui sont faites sur Igor Tudor, dans le sens où, finalement, la frustration qu'on a, elle n'existe que parce que, finalement, c'est Tudor qui a suscité ces attentes-là. Et si on est honnête, on ne peut pas, d'un côté, ne retenir que la frustration sans retenir les attentes et l'enthousiasme qu'a mis Igor Tudor dans cette équipe, qui a fait qu'à un moment donné, on s'est mis à rêver du titre, de champion. Et si vous voulez, pour moi, le point d'orgue de ce que je dis, c'est l'élimination contre Annecy. Évidemment, c'est décevant, c'est énervant. Mais moi, si on avait été éliminé contre Annecy, s'il n'y avait pas eu ce match contre le PSG le tour d'avant, cette élimination contre Annecy, ça aurait été un échec, évidemment. Mais ce n'est pas la première fois en 20 ans que Marseille se fait éliminer par des petites équipes. C'est parce qu'il y a eu ce match contre le PSG qui était un petit peu finalement le point d'orgue de notre saison. Et en même temps, c'est un peu le paradis et l'enfer de notre saison. C'est vraiment c'est le match qui nous a fait le plus, je pense, qui nous a procuré le plus d'émotions. Et au final, qui nous a tué, puisque je pense qu'il y a des joueurs qui ont sauté en vol depuis avec la victoire et l'élimination contre Paris. Donc moi, je suis très gêné par rapport aux critiques, par rapport à Igor Tudor sur cet état de fait là. Moi, je trouve que si on est honnête, il faut reconnaître que d'un entraîneur dont on n'attendait rien, finalement, les attentes qu'il a suscitées, c'était quand même ça nous conduit à être frustrés, mais c'est quand même lui qui a suscité ces attentes-là.
Tu rejoins Christophe Dugarry qui disait hier il y avait matière à faire beaucoup mieux. C'est ce que disait Dugarry.
Tu n'attendais rien de Tudor. Tudor, il prend l'OM deuxième de Ligue 1, Tudor ou un autre. Il prend un club qui vient de finir deuxième de Ligue 1, qui est en Ligue des Champions, avec un effectif taillé pour surtout les tableaux, etc. Donc tu ne peux pas dire t'attendais pas rien de Tudor. C'est bizarre comme postulat de départ. Je peux pas dire, t'attends rien de comme le successeur de Tudor, quel qu'il soit, il y aura une attente parce que son prédécesseur a terminé troisième et celui d'avant deuxième.
Stéphane, Stéphane.
Et puis surtout, argument évidemment massu, t'as le deuxième ou troisième budget de Ligue 1.
Ouais, mais Stéphane, le truc, c'est que Marseille, deux fois sur le podium, c'est quelque chose qui arrive très rarement. On a déjà fait des saisons. Moi, je pensais vraiment que la saison.
Et sur les 10 dernières années, 4 fois en comptant cette année et une fois avec la saison coupée en deux. C'est pour ça que je dis que ça n'est pas la normalité du contexte marseillais, mais on l'oublie un peu.
Tout à fait.
Oui, mais oui et non, parce que quand t'as une stabilité directionnelle à l'OM, ce qui est rare, soyons clairs, mais il y a eu à un moment donné de continuité avec Pape Diouf. Président et
vieux,
et Fournier. Ouais, c'était fin des années 2000.
Vieux, tout ça.
Là, l'OM était 3, 4, 5 ans de suite de podium. C'est vieux, t'as raison.
Je sais même pas s'il y a eu 3, 4 années de suite le podium. Et tu sais, c'est pas la période. Alors, ils font en 2010 leur quart de finale Ligue des Champions, mais autour de ça. Il faut aller à 2004 pour voir une finale de c'était l'UEFA à l'époque.
Non, il y a eu la finale contre l'Atlético depuis.
Non, mais c'est ce que j'allais dire.
Non, mais il y a eu une équipe en championnat.
Avant, il y avait rien. Après, il y a eu toutes ces années où l'OM disparaît des coupes d'Europe. Il y a cette année 2018 où ils vont en finale. Mais tu vois, sur la scène européenne, l'OM qui se revendique club européen, on a fait une grosse fête la semaine dernière. En fait, je crois qu'on oublie, parce que l'OM dans la représentation nationale, dans les yeux de tous les gens en France, c'est le grand club, le gros club. Mais en fait, la réalité, c'est que depuis 20 ans, c'est pas du tout ça. C'est resté parce que c'est un nom, parce qu'il y a des titres, il y a un palmarès. Mais si tu regardes, ne serait-ce que ce qu'ils ont fait sur les 20 dernières années, aussi bien en championnat, titre gagné, il y a pas de Coupe de France. Il y a le dernier titre de champion.
Champion 2010.
Il faut remonter, voilà. Tu vois, il n'y a pas grand-chose. Donc, et sur les 10 dernières années, je l'ai dit, il y a 3 podiums et celui de cette année. Bon, ben.
Non, mais Daniel, la normalité.
La normalité, c'est pas ça. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu dis de Lyon qui a pris énormément de retard ces dernières années? Tu vois, il faut, en fait, analyser. Au vu de ce qui se passe depuis 10-20 ans, un club, c'est une continuité, ça s'inscrit dans un courant. Le courant actuel, c'est le courant Longoria.
Tu peux pas. L'OM, c'est aussi le deuxième budget de Ligue 1 derrière Paris. Ou si tu
veux. Bah non, c'est Lyon.
Avec le cas à part.
C'est Lyon. Lyon, c'est beaucoup plus de moyens sur les 10 dernières années que Marseille. Marseille, il y a eu des périodes très compliquées au niveau aux ailes.
Revenons sur les coachs.
Sur les 10 dernières années.
Au niveau aux ailes, mais bien sûr que si.
Revenons sur les coachs. Parce qu'il y a un truc quand même à Marseille qui est assez. Et Sofiane pourra donner son avis.
Il y a surtout un truc, pardon, quand même. Marseille, t'as un engouement, t'as une folie, t'as une passion.
Public extraordinaire.
Qui fait que c'est pas. De toute façon, tu peux pas dire on attend rien de Marseille. On attend forcément de Marseille.
Je te dis pas qu'on attend rien. Je te dis qu'on attend trop, eu égard au passé récent. Le public au Vélodrome, attention.
Daniel, tu manges trop de bonbons. Il faut que l'auditeur de l'After sache que tu manges trop de bonbons.
C'est vrai. Et surtout pendant l'antenne.
C'est pas bon du tout pour ta santé.
Exactement. Donc toi, tu attends minuit.
Le stade, il y a encore 2 ans et demi, il n'était pas plein.
Non.
Il n'était pas plein du tout. La moyenne était très décevante.
Un stade pas plein, c'est 45 000 personnes à Marseille.
C'était moins que ça.
Enfin, maintenant, il est plein et c'est assez impressionnant.
Ça fait déjà quelques années.
Alors, les coachs, parce que j'aimerais quand même qu'on souligne ça. Sur là, les 20 dernières années, pour monter loin, Marseille est incontestablement l'équipe qui a consommé le plus de coachs et souvent pour un an. Alors, la liste est longue. Il y a eu Bope un an, Bielsa un an, Anigo un an, Sampaoli un an, maintenant Tudor un an.
Garcia un peu plus
Bielsa.
Longtemps.
Les deux qui sont restés plus longtemps, Bielsa un an, c'est Deschamps et Garcia, ils sont restés 3 saisons chacun. C'était le record, quoi. Donc c'est un club mangeur de coach quand même. Alors pourquoi?
C'est pas avec les mêmes présidents, c'est pas dans les mêmes contextes.
Il y a la stabilité directionnelle à l'OM. À part McCourt, il a usé combien de présidents déjà? On en est au 3e président.
2e.
Sous McCourt.
Et Longoria, ouais.
Je sais pas si ça peut se mettre.
Non, mais ce qui est surtout là, le cas d'espèce de Marseille, c'est que tu parles des changements de coach. Mais ce qui est étonnant avec Marseille, c'est que les coachs partent quand ça se passe bien. Même si Bielsa avait une saison péniblement terminée, mais enfin,
il n'y avait pas de raison objectif qu'il s'en aille.
C'est ça la vraie nouveauté.
Sampaoli, il termine deuxième. Tu te dis, bah voilà, ils progressent, ça va aller mieux, on va renforcer. Bah, puis ça va. Là, Tudor, si effectivement le soir de la victoire en coupe contre le PSG, on te dit Tudor sera plus l'entraîneur du PSG de Marseille l'année prochaine, tu te dis, mais vous êtes devenu fou. C'est ça qui est surprenant. C'est pourquoi. Et surtout, dans les deux cas récents, Sampaoli et Tudor, c'est la communication qui est faite autour de ça qui m'interpelle. C'est-à-dire que on sent que c'est les coachs qui veulent partir, c'est maquillé par Longoria reprend quand même la main au niveau com, c'est là où il est très malin d'ailleurs, où on voit qu'il est très intelligent, c'est que là il reprend la main sur une décision qui finalement est celle de Tudor en annonçant lui-même le départ de Tudor. Bon, il y a un flou.
Donc enfin, t'as cité sur les 10 dernières années 3 coachs qui sont restés un an. Bielsa, Sampaoli, Tudor, les trois ont un point commun, se sont fait massacrer par les médias français.
Boop, ça compte pas dans les 10 années.
Ouais, je sais pas compter.
Moi, je trouve pas Daniel que Tudor a été massacré par les médias français.
Beaucoup.
Pas du tout.
Allez, t'as raison.
Non,
on peut pas dire massacré, mais beaucoup critiqué.
Pourquoi? Je trouve même qu'il y a
beaucoup critiqué.
Ouais, mais ça, c'est tout n'importe quel entraîneur, n'importe où. Je veux dire, rappelle-toi,
aujourd'hui, Galtier au PSG a été beaucoup moins critiqué dans les médias, par exemple. À part ici, hein, moi, je parle pas de nous. Hein.
Ouais. Je sais pas, je suis pas.
Galtier beaucoup moins, par exemple.
Galtier, il a.
Blanc qui reprend, qui dit la Coupe du Monde me servira pour reconstruire l'équipe et tout. Oui, ok, tu vas finir septième, quoi. Ok, très bien, génial. Oui, c'est mieux qu'avant. Ah oui, super et tout. On parle de Lyon, deuxième budget, gros stade, machin, tout ce que tu veux. C'est un club qui n'existe plus en Coupe d'Europe. Voilà. Lyon n'existe plus en Coupe d'Europe. Donc Marseille, on se met à son chevet. On a l'impression que c'est le grand malade. On lui prend le pouls. À côté, t'as Lyon, autre grand club français. On a l'impression que tout le monde s'en fout de Lyon. Oh là, c'est parti. Textor arrive. On ne sait pas ce qu'il va faire. Qui va diriger le club. L'entraîneur, il est formidable parce que tout le monde, les médias, se gargarisent de Laurent Blanc parce que c'est formidable. Il est français, donc tout va bien. À l'OM, à chaque fois, c'est le grand malade. L'OM, c'est le grand malade. Ils viennent de faire deuxième et troisième, c'est le grand malade. Ok, bah très bien.
Alors sur cette instabilité des coachs, là, Sofiane, t'as un avis, toi?
Moi, oui. Ce que je voulais dire, déjà, juste une petite parenthèse, c'est quand je dis que l'OM, on n'attendait rien, il faut se rappeler, parce que là, on est au mois de juin, donc on a quand même un peu de recul, mais au début de la saison, quand la saison commence, Lyon qui fait revenir Tolisso, Lacazette, tout le monde les voit dans les top 3. Je pense que Nice, avec son projet, tout le monde les voit plus haut. Bon, bref, c'est une parenthèse.
Mais oui, t'as raison de le dire. Lyon jouait podium. Mais quand il termine septième, il n'y a pas de drame. L'OM, ils font trois au lieu de faire deux.
Voilà.
Tout le monde doit se jeter dans le vieux port.
Va demander à Lyon s'il n'y a pas de drame. Bien sûr que les supporters, ils sont tous comme des fous.
T'entends les médias dire qu'il y a drame, comme à l'OM?
Exactement, mais
c'est une blague ou quoi? Arrêtez. Il n'y a pas du tout le même traitement.
Les supporters lyonnais, ils ne sont pas contents. C'est très bien.
Ils ont quand même changé d'entraîneur en cours de saison.
Ouais.
Ils ont viré leur président historique. Tu vas pas dire que
les autres sont calmes à Lyon. Oui, Sofiane, vas-y.
Non, sur les coachs, moi, ce que je veux dire, déjà, tout simplement, si vous regardez un petit peu les équipes du top 5 en Ligue 1, il n'y a aucune équipe vraiment qui a une stabilité sur les coachs. À chaque fois, moi, ce que j'entends, ça me fait toujours rigoler parce que Genesio arrive à Rennes, ça marche pendant 6 mois. Voilà, ça fait, pour le coup, c'est un moment parce que ça fait 2 ans qu'il est là. Mais on dit la méthode Genesio. Puis au final, on nous sort toujours cet argument du choc psychologique pour changer les choses. Et on a l'impression que les clubs français, en fait, ça fonctionne comme ça. C'est que des à-coups. Il n'y a pas vraiment de stabilité dans un club. Alors l'OM est plus scruté que les autres. Donc forcément, ça interpelle plus. Puis Marseille, c'est un contexte qui est particulier. Maintenant, en soi, moi, ce que je veux dire, c'est que Longoria, ce qu'il fait, c'est un peu un numéro d'équilibriste. Parce que Marseille, t'as pas les moyens aujourd'hui Marseille peut pas faire comme Monaco, faire du trading. Impossible. Avec l'engouement qu'il y a, comme t'as souligné Stéphane, tu peux pas faire comme à Monaco. En même temps, tu peux pas non plus ramener des gros joueurs. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as Longoria qui bricole, comme t'as dit Daniel, qui fait un numéro d'équilibriste, qui change d'entraîneur, qui essaie à chaque fois d'insuffler une nouvelle dynamique tous les ans. Ça tient en Ligue 1. Pour l'instant, ça a tenu les deux fois qu'il a été là, enfin, les trois fois, parce que Sampaoli arrive en cours de saison. Il est né quand même cinquième en Europa League aussi, là, la première année. Donc ça tient pour le moment en Ligue 1. Maintenant, c'est clair que pour s'inscrire sur la durée en Europe, oui, je pense que ça pourra pas tenir. Mais en même temps, aujourd'hui,
c'est bien. Tu crois dans le discours de Longoria. En gros, Longoria te fait croire que sa méthode, elle est unique. Il y a que ce chemin-là possible pour Marseille. Mais moi, quand je vois les salaires de Ligue 1. Qui sont publiés tous les ans dans l'équipe en février-mars, et que tu vois que T'as je ne sais combien de joueurs à Marseille, j'ai pas la liste là à l'instant où on parle, mais à 300 000 euros par mois, je me dis que eux, t'as des moyens. C'est pas du bricolage.
Paillet, oui, mais ça va être fini, ça va alléger la masse salariale.
Ils sont là, Daniel, ils sont là, ces joueurs-là. Ouais, et c'est encore un. C'est
un président qui hein, il les a récupérés d'avance, ces problèmes-là.
Hein. Oui, enfin,
le problème, c'est qu'à l'OM, tu récupères toujours des problèmes qui.
Mais tous les clubs, Daniel, les clubs, tu pars jamais d'une page blanche.
Ça, c'est vrai. Ça,
c'est comme ça.
Oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi qui explique l'adaptation. Qui est obligé de faire le président actuel. Et ce qu'on n'a pas dit, mine de rien,
et pour c'est conclure.
Avec cette méthode de Sampaoli s'en va, et maintenant tu dors, donc cette impression que tu viens de décrire, Gilbert, que tous les ans... Moi, cette année, à la différence de l'année dernière, il se met quand même une pression supplémentaire. Je pense qu'il est obligé de prendre un coach quand même renommé. Enfin, une tête qui va séduire les supporters. Tu vois, je pense
il peut pas refaire un Tudor bis, c'est ça que tu dis.
Moi, je trouve que ce serait compliqué de faire un Tudor bis.
Ah, il paraît qu'il aime bien le coach de la Fiorentina, Italiano. Paraît-il.
Non, puis il y a un autre débat qui va arriver à Marseille, c'est l'affaire Gay qui va bientôt être tranché.
Alors effectivement, t'as raison, Gilbert, il faudrait voir je revois mon jugement parce qu'en fait ça dépend de l'histoire qu'il raconte, parce que sur Tudor en fait il a sorti le gars dont on disait beaucoup de bien en Italie, qui entraînait le Hellas Verona, ça jouait bien au ballon, il y avait le fameux gros pressing machin et mentalité Juve, et c'est toujours un peu l'histoire que tu racontes, et là effectivement le mec de la Fiorentina c'est un bon.
Après, est-ce qu'il veut alors quitter la Fiorentina? Imagine, il gagne la Conference League et tout, le gars. Bon,
mais de toute façon, il faut regarder environnement Longoria pour savoir. Non,
moi,
quel coach
moi j'ai pas trop d'inquiétude sur sa capacité. Je veux dire, moi, il y a des choses que je trouve très troublantes dans le fonctionnement de Longoria. Par contre, la capacité à avoir des idées, à trouver des deals, ça, il l'a montré. Après, ce serait très intéressant. On aura le temps de le faire cet été, d'étudier. Je crois qu'il y a eu 13 départs, 14 arrivés l'été dernier. C'est de devoir séparer le bon grain de livret, quoi. Ça serait intéressant.
Conclure là-dessus sur Marseille. Dans quelques instants, le mercato parisien qui commence à prendre forme. Il y a des noms qui arrivent. On va donner notre avis, évidemment, avant de parler de Monaco, de foot féminin et des traîtres dans le football. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Gilbert Bribois.
22h50, l'after est là jusqu'à minuit avec Stéphane Guy, avec Daniel Riolo. Petit point tennis, Eric Salio, le dernier français Rinderknecht est sur le court. Comment dit,
il s'accroche, il s'arrache pour essayer de retarder l'échéance, Arthur Rinderknecht, et éviter un incroyable zéro pointé au tennis français. Mais il y a 2-7-1 pour Taylor Fritz, 2-6, 6-4, 6-3 et surtout 4-3 au quatrième avec break, donc pour l'américain qui est au service, mais là qui est chahuté. Il y a 15-30, Arthur qui s'appuie sur le public. Je pense qu'ils ont ouvert le Linglen aux spectateurs du central, donc là le stade est plein à craquer. Est-ce que ça suffira pour renverser le truc? On verra. En tout cas, il y a encore une micro chance pour Arthur Rinderknecht, il est à 15-30.
Merci, à tout à l'heure. Alors, le mercato parisien commence, clairement, puisque des noms sortent. Alors, vous avez vu que Lucas Hernandez, donc il n'a pas joué depuis la Coupe du Monde, hein, où il s'est blessé, rappelez-vous, en tout début de Coupe du Monde, veut absolument venir au PSG. Il a dit au Bayern qu'il voulait quitter le club, alors qu'il avait un contrat quand même jusqu'en 2027. Lucas Hernandez, je sais pas au Bayern comment ils l'ont pris. Hein, le gars, il joue pas depuis 6 mois, puis il se pointe, il dit bah les gars, je m'en vais, hein, salut. Enfin, je veux partir en tout cas. Voilà, ça c'est le premier dossier. Alors, bonne idée, mauvaise idée, on va en parler dans quelques instants. Et puis on a longuement parlé aussi tout à l'heure dans Génération After de la possibilité donc. Que le PSG a fermé l'éventualité du Coréen Kim Min-jae. Vous savez que c'était
Défenseur de Naples.
Défenseur de Naples, donc non, c'est non. Il ne viendra pas. Et puis, avant que je parle d'Asensio, sachez que Manuel Le Ugarte, vous savez, on l'avait annoncé, au PSG, le joueur du Sporting, 60 millions de clauses libératoires. Et bien en fait, finalement, il pourrait aller à Chelsea, celui-là. Mm-hmm. Et Chelsea a mis 5 millions de plus sur la table.
Il y a qu'à aller prendre toutes les soldes de Chelsea. Ils ont un stock.
Oui, c'est vrai.
Il y a qu'à aller taper dans le stock.
Il y a peut-être
incroyable de se dire qu'ils vont recruter à ce poste-là où il y a déjà 7 joueurs.
Voilà. Et puis donc, Asensio, donc Fred Hermel a parlé longuement tout à l'heure, qui se rapproche de plus en plus de Paris, lui aussi. Donc Asensio et Hernandez arrivent. Ugarte, on ne sait pas trop. Mais enfin voilà, les choses commencent déjà clairement
quand même
à bouger.
Dans ce qui bouge, on a un défenseur qui est tout le temps blessé.
Et puis surtout qui est sous contrat. Et au Bayern Munich, voilà. Il n'est pas sous contrat. Voilà.
Et qui est souvent blessé et qui en club n'a pas de référence depuis pas mal de temps. On a un joueur également tout le temps blessé et qui en plus, s'il n'est pas surveillé de très très près, va faire la nouba dans toutes les boîtes de nuit parisiennes. Parce que sur son CV, c'est ça qu'il y a beaucoup.
Si Neymar et Verratti partent, il va falloir qu'ils trouvent des remplaçants aussi, d'ailleurs.
Des compagnons de...
Pour la nuit.
Si Neymar et Verratti restent, alors là, c'est cuit. Alors là, là, c'est cuit, mais c'est cuit complet, là. Parce que, alors, à Madrid, parce que Asensio était un jeune qui promis un destin, c'est vraiment un joueur extraordinaire, hein. Il s'est plombé la santé dans les sorties boîte de nuit à Madrid, il a pas arrêté. Donc là, s'il vient à Paris, il est pas surveillé.
Ce qu'on oublie, c'est qu'avant l'émergence de Mbappé et de d'Haaland, c'était lui le crack de demain, Asensio.
C'est vrai.
On a Christopher là au 32-16 qui est avec nous. Christopher, bonsoir.
Nkunku ?
Non, pas Nkunku, mais c'est pas loin, ouais. Ça va, Gilbert ? Ça va ?
Salut, Christopher.
Et, Stéphane ?
Bonsoir, Christopher.
T'es supporter de Paris ?
Oui.
Bon, quand t'entends les noms là qui sortent, là, tu te dis que c'est des bonnes idées ou tu te poses des questions ?
Un peu des deux. Asensio, quand même, il met quand même des buts cette année, mais c'est vrai que quand même, au niveau...
Ah, c'est un remplaçant au Real, hein ?
Oui, oui, bah, on n'a pas de super sub au PSG.
Et qui est souvent blessé.
Oui, oui.
C'est le super sub du Real. C'est le joueur, nous, la catégorie souvent blessé, elle est importante quand même au PSG, hein ?
Oui, oui, bah, oui, oui, c'est vrai qu'au niveau des petits délongations et aussi des croisés.
On peut la faire la catégorie des souvent blessés du PSG. Donc oui, Neymar, Verratti, Renato Sanchez,
Kimpembe,
même Lara Fabian, là, il commence à se blesser souvent.
Oui,
Ah, si. Nuno Mendes, c'est les catégories souvent blessées.
Hakimi,
catégorie souvent blessée. Regarde le nombre de matchs qu'ils font dans une saison, ces mecs-là.
Bon. Ouais, Nuno Mendes, c'est dommage, hein, parce que là, c'était vraiment.
18 matchs cette année, Nuno Mendes.
Ouais, c'est dommage, parce que lui, ça a l'air d'être un crack quand même.
Bah, il est quand même élu meilleur latéral de Ligue 1.
Ah, écoute, bon. Tu sais, comme meilleur espoir. Ouais, donc, qui meilleur espoir plutôt que Wahil Montpellierin? Meilleur espoir
Mendes. Ouais, c'est Mendes le meilleur espoir.
Voilà, génial. Ouais, le mec, il a fait 18 matchs.
Bravo. J'ai surtout trouvé le moyen de ne pas mettre la casette dans l'équipe type de Ligue 1 cette année.
Par ailleurs.
Il fallait caser Messi, donc.
Il fallait l'inventer, quand même.
Christopher, tu vis à Los Angeles ?
Oui, je vis à Los Angeles.
Bon, bah écoute, t'écoutes l'after là-bas à Los Angeles ?
Ah oui, moi, tu sais ce que je fais. Donc, en gros, nous ici, la Ligue 1 elle passe sur Bein Sports et les commentateurs américains, c'est pas encore ça, quoi. Ah. Donc soit je mets les commentateurs dans la langue espagnole, ou sinon je mets l'after. Vous êtes deux minutes en avance, donc en gros il faut que je sync tout ça. Donc je mets Jeannot qui fait le PSG. Donc c'est bien quand il dit rentrer touche, comme ça je peux savoir quand je dois mettre synchroniser le son.
Qu'est-ce que tu fais à LA?
À LA?
Ouais.
Je travaille dans une boîte de jeux vidéo. Je suis, comme on dit en bon français, responsable de compte clé.
D'accord. Et t'habites où, Los Angeles ?
Tu connais Redondo Beach ?
De quoi, pardon ?
Alors, on connaît Fernando Redondo, mais pas Redondo Beach, nous.
Ouais, c'est pareil. Non, c'est au sud. C'est au sud, c'est à côté de là où il y a les Palos Verdes, c'est à côté de là où il y a Shaquille O'Neal qui vit et tout ça. Donc,
est-ce que tu croises Marcy à la boulangerie le matin ou pas ?
Il y a une petite boulangerie qui s'appelle Éclair et Café, qui est à 1 miles. Et de temps en temps, je me fais un petit plaisir. Le pain au chocolat est pas mal, ouais.
Bon. Il est cher, mais il est bien.
Ouais.
Il doit être à 5 dollars, non ? Il doit être à 5 dollars ?
Ouais, exact.
Ouais, c'est
dollars,
ça, ouais.
Je connais. 5 dollars, le pain au chocolat ?
Ouais, bah attends, t'es à LA, Stéphane, tu crois que t'es à Alençon ?
Bah, Alençon, tu passes pas.
T'es loin de Pasadena, tout ça.
Peut-être qu'à Alençon, tu connais les meilleurs, tout ça.
Donc Pasadena, c'est là où en gros il y a les studios de films, dans ce qu'ils appellent la vallée, donc c'est un peu le désert. Et moi je suis plutôt côté de l'océan, mais plus au sud de Santa Monica.
Ah d'accord, ok, très bien. Ouais, mais ça va, t'es bien là-bas.
Ah oui, oui, bah, je vais pas me plaindre, hein, je suis bien. Hein.
Bon, après, quand tu dois aller dans le temps, tu mets 2 heures à cause des bouchons, mais sinon, ça va.
Non, une heure.
Ouais, 1 heure, ouais, c'est déjà beaucoup.
Ouais, Daniel, il te fait croire que c'est qui connaît Los Angeles comme ça.
J'ai de la famille là-bas, je connais super bien.
J'ai t'as beaucoup de famille. Ouais, t'es un Californien.
Bah, j'ai beaucoup de famille à Los Angeles, oui. Après la guerre, il y a une petite île en Italie qui a un peu dirigé le monde.
Oui, bon.
Si, aux États-Unis, je peux te dire qu'ils ont
dirigé beaucoup de choses. Pas forcément hyper légalement.
Ah, ça, je t'ai pas dit que, oui. Je t'ai pas dit que j'étais clean, hein. Mais en tout cas, que ce soit à New York et à Los Angeles et en passant par Vegas.
Bon, Christopher, c'est sympa, tu nous as fait voyager un peu, là.
Bon, salut Romain Del Bello, notre confrère qui est installé à Los Angeles.
Désormais. Ah oui, lui, il habite à Manhattan Beach, un peu plus haut que moi, mais lui aussi, il est pas mal, il est juste à côté de l'océan, c'est pas mal.
Ah, vous connaissez, en plus. C'est vrai.
Romain Del Bello, avec qui j'ai commenté le premier match de Messi avec l'Argentine.
Alors oui, j'avais oublié. Je l'ai vu l'extrait sur Twitter il y a pas longtemps, d'ailleurs.
Absolument,
salut Christopher, merci beaucoup. À bientôt.
À la prochaine.
À bientôt dans l'after, rappelle-le. En fait, Christopher a envoyé un message sur Direct Studio et puis Max, comme il a l'œil partout, il l'a appelé.
23h.
Parce qu'avant, on n'avait pas de mec de l'étranger.
Oui, bah c'est pour ça maintenant on fait comme ça. Max, on a beaucoup d'auditeurs à l'étranger qui disent ouais, c'est on peut pas appeler le 32-16, ça marche pas. Donc
j'ai rencontré un Canadien l'autre jour dans un match à Madrid d'ailleurs et qui écoutait un fidèle auditeur de l'after.
Je crois qu'il n'y a pas un pays dans le monde où l'after n'est pas écouté.
Stéphane, il va à Madrid, il rencontre un Canadien et le mec dit j'écoute l'after.
Exactement.
Est-ce qu'au Bhoutan on a eu trace d'un auditeur de l'after?
Ah, Bhoutan.
Népal. Parce qu'on avait fait la liste, il y avait quasiment tous les pays. Hein. On était un peu l'ONU du foot.
Ah non, on avait des choses assez étonnantes. Effectivement, des pays improbables. Bon, on salue en tout cas tous ceux qui nous écoutent en podcast ou en direct.
C'est dans les grandes gueules qu'il y a cette chronique, je ne sais pas si elle existe encore.
Elle existe plus.
Où il y avait les auditeurs de l'étranger qui appelaient.
Voilà, excuse-moi, cette chronique, je l'aimais bien, mais les mecs, ils survendaient leur truc. Parce qu'à chaque fois, la Marshall disait « Alors, tu es à tel endroit, qu'est-ce que tu vois autour de toi ?» Puis alors, le mec, t'avais l'impression qu'à chaque fois, c'était une espèce de paradis.
Ah oui, mais je me souviens, le mec de l'étranger qui appelait, mais je me souviens de ça.
Alors, t'habites à Newcastle, qu'est-ce qu'il y a autour de toi ?« Oh, c'est génial, il y a la mer
Newcastle, je vois pas ce qu'il y a de génial autour de lui. Hein. »
Non, mais tu vois, c'était l'exagération. Mais c'était sympa. Mais ils ont arrêté. Et d'ailleurs, c'était pas dans les grandes gueules, c'était chez Eric Brunet. Cette chronique.
Ah, c'est ça, exactement.
C'est Brunet qui faisait ça. C'est lui qui fait ça, Brunet. C'est ça. Voilà. Maintenant, il parle de l'Ukraine. Dans un instant, on va parler de Monaco, nous, de foot féminin.
Dans un instant, surtout, il n'y aura pas de français à Roland-Garros parce que Fritz sert pour le match.
Eh bien, on y retourne dans quelques secondes. À tout de suite.